de Puchichata.
Moi, je suis André de Mouchmaï au Kassai Oriental. J'ai réussi totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Élise de Koumbati au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, d'avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de faire confiance à la fréquence de la PI Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. Le Sénat a voté la semaine dernière, peu avant la clôture de la session extraordinaire, le texte unique de la proposition de loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé en RDC après harmonisation avec l'Assemblée nationale. La loi actuellement en vigueur vise à rendre obligatoire la sous-traitance des activités annexes et connexes de l'activité principale et à les réserver, quelle que soit sa nature, aux entreprises congolaises à capitaux congolais, en vue d'en assurer la promotion et favoriser ainsi l'émergence d'une classe moyenne. Comment commentez-vous cette actualité? Notre standard est ouvert au 081-890-1735 pour les interventions en direct. Vous pouvez nous joindre également sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Julie Pesa Bongonda est au standard. Jérôme Nguyenboa sur la réalisation et coordination de ce magazine mis en monde par Dédoné Nyangasa. Pierrot et la Mégie vous les présente sous la supervision de Martin Seboujango, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Paroles aux Auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Paroles aux Auditeurs, Pierrot et la Mégie.
D'une manière générale, la sous-traitance, c'est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution des tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. On voit cette pratique dans beaucoup d'entreprises dans notre pays et la loi a-t-elle été nécessaire parce qu'on estime en RDC que la sous-traitance en principe devait être assurée et par de PME des entreprises congolaises à capitaux congolais alors que sur terrain plusieurs entreprises étrangères mais aussi des multinationales pratiquent la sous-traitance à travers d'autres entreprises étrangères ou soit des Congolais mais à capitaux étrangers. Comment commentez-vous le fait d'avoir cette loi qui réglemente les secteurs de la sous-traitance? C'est la question au centre de notre échange. Gaston, merci d'être avec nous. Vous êtes à Kananga. Bonjour.
Je suis à Kinshasa.
Ah, vous êtes maintenant à Kinshasa. Quel est votre point de vue par rapport à l'adoption de cette loi?
Bon, Pierrot, moi, j'allais préciser une chose. Vous l'avez déjà très bien dit pour avoir votre introduction. Je pense que la sous-traitance est confiée à un entrepreneur qui va mettre au service de celui qui avait signé le contrat principal, ce qui peut mettre au service, produit, truc comme ça. Mais dans le cas d'espèce, c'est l'entrepreneur qui pose pour l'entrepreneuriat qui pose problème en RDC. Moi, je pense que les Congolais ne sont pas plus entrepreneurs. Parce que même les sociétés que vous faites allusion, les sociétés, la plupart des sociétés congolaises sont congolaises par le fait d'être créées ici, mais sont animées par les étrangers. Et nous constatons que les Congolais n'ont pas cette culture-là d'entreprendre, ils aiment être les travailleurs. Imaginez une société congolaise animée par un Camerounais, par exemple, qui est l'associé, les associés Camerounais et la gestion confiée à ces gens-là, utilisent la main d'œuvre congolaise. Et c'est à ce niveau-là que nous crions, nous constatons que la rémunération qui suit les services que donnent les travailleurs n'est pas en mesure de couvrir tous les besoins que font ces gens-là. Mm-hmm. C'est à ce niveau-là que se pose problème. Parce que quand vous parlez sous-traitance, moi j'ai mon entreprise, j'ai mes gens que je peux mettre à votre disposition et que vous me donnez l'argent, moi je ne sais pas vraiment rémunérer comme il faut ces gens-là. C'est là où ça pose problème. Moi je pense mm-hmm. qu'on devrait insister sur l'entrepreneuriat et qu'on voit les Congolais. créer les structures et vraiment dans ce domaine-là de sous-traitance, voire même des contrats domiciles.
Vous avez raison, Gaston. Oui, ouais. Gaston, mais il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent aujourd'hui, hein, qui disent que le problème de l'entrepreneuriat dans notre pays, le fait que beaucoup de Congolais ne sont pas entrepreneurs, c'est la part aussi hein, de notre système scolaire. On se plaint des fois que notre système scolaire forme plus les demandeurs d'emploi que les créateurs d'emploi.
Non. Pierrot, moi je suis un universitaire, hein. J'ai fait l'université ici. Je vais vous dire d'abord qu'à l'université, nous on nous forme, nous sommes des chercheurs, nous sommes les gens qui doivent chercher, mettre en place des structures, des trucs qui vont faire que l'emploi soit créé, c'est créé. Je n'invite pas tout le monde à être entrepreneur, mais au moins ceux qui ont suivi une bonne formation, surtout au niveau universitaire, même dans d'autres aspects, il suffit d'être formé et de venir disons, avoir des qualités d'entreprendre. Quand vous parlez, moi je vous dis peut-être ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on n'a pas la politique d'accompagnement. Donc on ne sait pas accompagner le fait des gens qui manifestent ces attitudes-là d'entreprendre. Et c'est là où se pose problème dans notre pays. Mais inciter un grand monde à devenir entrepreneur, ce serait une bonne chose. Parce que la sous-traitance, je vous ai dit, que c'est qui la sous-traitance n'est pas l'effet de simples travailleurs qu'on utilise, mais c'est l'effet d'abord de ceux qui signent des entrepreneurs qui signent ces contrats-là. Mmh. Alors ces entrepreneurs ont constaté que lorsqu'ils emploient les Congolais, qu'on utilise comme, à mon avis, les naïfs, ils donnent l'argent qui n'arrive pas à... Ce n'est même pas seulement au niveau privé, parce que même l'État, vous savez, qu'est-ce qu'on paye les Congolais actuellement. C'est là où ça pose problème. Alors, tant que notre État ne saura pas mettre une bonne politique, en ce sens que nous ayons une bonne production, et cette production fera que non, lorsque quelqu'un est bien payé, il arrive à acheter ce qu'il faut, ce qui est dans les marchés, qui est produit normalement localement ici, la vie peut s'améliorer. Mais croire, nous faire prétendre dire que ces contrats, disons, cet aspect-là, il reviendra aux Congolais sans tenir compte de cet aspect. Là des entrepreneurs qui n'ont pas l'humanisme,
vous avez raison quand vous évoquez le fait que combien de Congolais aujourd'hui sont entrepreneurs. Il n'y a pas de structure d'encadrement, d'accompagnement des Congolais qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas moyen de pouvoir les encadrer, comme on prévoit en principe que la sous-traitance soit assurée par des administrations de PME congolaises à capitaux congolais. Combien de Congolais ont des capitaux? Et c'est ça vraiment le problème. Alors vous estimez que la loi seule ne va pas résoudre le problème s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, de création de ces entrepreneurs dans le pays. Mais du moins, l'idée c'est que ces activités soient gérées par des entreprises congolaises à capitaux congolais. Merci beaucoup, Gaston Félicien. Merci d'être avec nous. Vous avez suivi Gaston tout à l'heure qui disait que le problème, ce n'est pas la loi. Le problème, c'est d'avoir des structures qui accompagnent les Congolais à l'esprit d'entrepreneuriat. Et c'est comme ça qu'on aura des PME qui pourront alors être utilisées dans la sous-traitance. Bonjour, Félicien. Quel est votre point de vue?
Bonjour, Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. Je vais dans le même sens que Gaston. En réalité, ce système existe déjà. Nous avons ici des entreprises congolaises qui sont en train de faire la sous-traitance, par exemple dans les domaines des gardiennages, dans les entreprises de télécommunications. Et on en trouve presque partout. Mais peut-être la loi vient pour venir régulariser cette situation. Mais je ne sais pas qu'est-ce que la loi a dit exactement parce que je n'ai pas encore lu cette loi.
Et Félicien, pour prendre l'angle, la loi a parlé de beaucoup de choses, mais nous avons pris juste l'angle que la sous-traitance ne peut être exécutée que par une entreprise congolaise ou une entreprise à capitaux congolais, parce qu'on voit aujourd'hui dans les Katanga, par exemple, il y a des sociétés minières étrangères qui accroissent le marché de la sous-traitance à d'autres entreprises étrangères. C'est juste ça, la loi prévoit que désormais la sous-traitance ne peut être exécutée que par une entreprise congolaise, une PME ou bien une entreprise à capitaux congolais.
Oui, c'est bon, parce qu'on doit donner du travail aux Congolais et puis aider aussi les Congolais à émerger. Mais est-ce que il y a des garde-fous? Parce que ce sont les Congolais qui sont en train de maltraiter d'autres Congolais. Imaginez par exemple dans les entreprises de télécommunications ou de gardiennage, un Congolais qui a son entreprise de sous-traitance, il sait bien que l'entreprise principale paye pour ce genre d'emploi, par exemple, $300 à l'agent et les soins médicaux et autres avantages. Mais lui, il va signer le contrat. Pour que ces 300-là, on les donne à lui, et lui, il vient payer $50 à l'agent et correspondant à cet emploi, sans autre avantage, pas de soins médicaux. Ce sont les Congolais qui sont en train de maltraiter d'autres Congolais. Il faudra que de ce côté-là, cette loi-là puisse fixer quand même qu'est-ce que les Congolais qui travaillent dans la sous-traitance doivent avoir comme salaire. Si ça ne peut pas correspondre au salaire de l'agent qui est dans la société, mais quand même qu'ils puissent avoir de quoi vivre décemment. Mais si on laisse les Congolais qui viennent juste le temps de créer une entreprise sur papier, et bien ils ramassent les Congolais à gauche à droite avec tous les chômages qu'il y a dans ce pays, et comment aller leur donner $50 alors que lui, on lui donne par personne $300. Ça, c'est pas résoudre un problème. Mm-hmm. C'est de ce côté-là que le législateur devrait faire attention.
Voilà, on pourra aborder d'autres aspects, mais rappelons aussi que les grands problèmes de la sous-traitance aujourd'hui, quand on les voit avec les sites de télécommunication, ce sont ces contrats précaires, les gens qui travaillent pour 2-3 mois, on les renvoie, ils reviennent encore 2-3 mois avec tous ces contrats précaires. Je crois qu'on pourra aussi entrer en profondeur, Félicien, pour revoir aussi d'autres aspects, comme vous l'avez dit.
Nous voulons ça. Nous voulons qu'on puisse vraiment sécuriser l'emploi au Congo parce que on ne peut pas être content de voir que la politique, c'est moi qui paye et on ne peut pas vivre sans la politique. C'est pourquoi les gens sont en train de se battre pour ça. Pour aussi qu'on sécurise tous les emplois pour que chacun, là où il est, il se retrouve.
Merci. Merci beaucoup, Félicien. L'idée, c'est que la loi sécurise aussi ceux qui se retrouvent dans la sous-traitance. On sait déjà dans quelles conditions beaucoup de Congolais travaillent dans ces entreprises-là. Alpha, vous êtes à Colésie. Bonjour, Alpha.
Bonjour, monsieur Julien.
On vous écoute, Alpha.
Merci beaucoup. Moi, mon problème, c'est quoi? Bon, à Colésie, nous avons des entreprises mères qui existent déjà à bon nombre. Maintenant, il se pose un problème.
Mm-hmm.
Les sous-traitants qui sont attachés à ces entreprises-là, ils sont gérés par nos entrepreneurs locaux. Des fois, dès que l'entreprise mère rompt les contrats avec une certaine sous-traitance, les gestionnaires de ces sous-traitance-là arrivent à partir avec les salaires des gens que les gens ne savent pas où les retrouver. Aujourd'hui, nous avons des gens sur la rue, partout là, qui trimballent, qui réclament leur salaire, qui n'ont jamais été payés. Mais avec ça, j'ai suivi tout à l'heure mon co-débatteur qui parlait de la mesure d'accompagnement de ces sous-traitants. Mais l'État, notre État, quelles sont ces mesures qu'elle met à l'appui de ces sous-traitants pour accompagner ces sous-traitants qu'elle arrive quand même à satisfaire la population?
Voilà.
Aussi, un autre problème. Il y a un autre problème.
Oui.
Les choix de sélection de ces sous-traitants des Congolais. On arrive à voir qu'à Colésie, la plupart de ces sous-traitants, ce sont toujours des sous-traitants étrangers. Les Congolais ne se retrouvent pas.
Mm-hmm.
Mais où est l'État? Finalement, dans tout ça.
Mm-hmm. Alors, ce qu'il faudrait aujourd'hui, Alpha, c'est que dès que la loi est promulguée, qu'elle soit vraiment respectée, hein, appliquée. Vous l'avez dit, qu'il y a des fois on voit des sociétés, on peut dire quand elle peut être présentée comme une société congolaise, mais en réalité les capitaux sont étrangers. Mais l'idée, c'est d'avoir et la société et les capitaux, que tout soit congolais aujourd'hui. Et vous avez insisté sur les mesures d'accompagnement pour permettre à ceux qui signent ces contrats de sous-traitance soient en mesure de pouvoir répondre aux besoins de la population, aux besoins des employés qu'ils utilisent pour les comptes de la société mère. Merci beaucoup, Alpha, de nous avoir appelé des Colésiens. Ingénieur Bâtier, à tout Tangali, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, Radio Kati. Merci de m'avoir encore passé la parole. Je salue tous nos auditeurs qui nous suivent.
Mm-hmm.
Par rapport au sujet, monsieur le journaliste, les sous-traitances, c'est bon, avec les nouvelles lois qui veulent signer. Mais nous, population, nous espérons qu'on a déjà accès des lois. Et nous voulons aussi que les autorités qui d'abord aussi mettent d'abord en pratique les lois qui existent déjà. Ça peut nous rassurer que même les lois qui vont signer prochainement, ça doit être mis en application. Parce qu'il ne suffit pas seulement de signer les lois et de signer les lois et ça doit rester dans les tiroirs. Ce n'est pas bon. Nous voulons qu'ils puissent d'abord appliquer ce qui existe. C'est à ce moment-là, si on propose encore d'autres lois, là on peut accepter. Ça ne sert à rien de continuer à signer des lois qu'on ne peut même pas mettre ça en place. Donc aussi, les systèmes de sous-traitance qui veulent appliquer. Déjà, nous avons un problème dans notre pays de passation du marché. Je pense qu'ici au Congo, les marchés, ça se font à gré. Il n'y a pas des appels d'offres. On voit seulement des entreprises qui arrivent et qu'on a exécuté. On ne sait même pas si on avait lancé les appels d'offres. C'est ce qui décourage la population et les entrepreneurs. Et je suis contre pour mon compatriote qui veut dire que non, les Congolais n'ont pas l'esprit d'entrepreneuriat, non. C'est le gouvernement qui ne facilite pas aux Congolais d'avoir cet esprit-là. On est des ingénieurs, des techniciens, il suffit seulement de créer un petit boulot, un petit travail. Vous allez voir que le gouvernement va commencer à vous décourager, à demander des tâches et à vous demander des choses impossibles. C'est ce qui décourage surtout la population. C'est déplorable. Donc, le gouvernement, avant d'abord de créer tout ça, il faut d'abord commencer à planir les sentiers pour ces jeunes techniciens, ces jeunes entrepreneurs.
Merci beaucoup, ingénieur Baxi. Merci beaucoup. Vous estimez que la loi c'est bien, mais l'appliquer c'est mieux. Alors la question des passations des marchés, nous avons eu plusieurs débats dans cette émission. La loi sur la passation des marchés existe et aujourd'hui en RDC on ne procède pas de gré à gré. Il faut lancer l'appel d'offres et vous dites que même ces appels d'offres pour que le marché d'une sous-traitance soit confié à une entreprise, tout se fait des fois dans l'opacité. Mais vous n'êtes pas d'accord avec Maître Gaston qui dit que beaucoup de Congolais n'ont pas l'esprit d'entrepreneuriat. Pour vous, les gens ont l'esprit d'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens qui ont été formés pour ça. Il y en a aussi qui se sont formés comme autodidactes autour de l'entrepreneuriat. Mais le problème, ce sont des structures. Ils doivent les accompagner. Des fois, même l'accès aux capitaux pour pouvoir lancer les entreprises. C'est de cette façon-là qu'on peut régler la question. Mais quant à la situation de la loi, vous estimez que on peut en avoir beaucoup, mais à condition que les lois soient respectées. Sostène, vous êtes à Bounia, dans la province d'Ituri. Bonjour, Sostène.
Et bonjour, Radio Capi.
On vous écoute.
Je vais dire tout simplement. Je vais dire tout simplement que nous, les Congolais, nous sommes forts en théorie. C'est que nous sommes des théoriciens. Donc, les lois ne disent absolument rien pour notre pays. Comment expliquer un étudiant qui termine l'université dans son domaine de l'entrepreneuriat et il sort sur le terrain, il n'a aucun sou, aucun accompagnement, aucun. Et comment il va s'en sortir? Moi, je pense que cette histoire des lois qui vous conduit de dire là, ça n'a aucun sens. C'est le problème de l'accompagnement et de savoir comment créer des mécanismes pour ravitailler ceux qui sont des entrepreneurs pour que cela soit sur le terrain. Mais de dire que non, les lois sur les usages, ça ne dit absolument rien, ça n'arrangera aucune chose dans notre pays. On cesse d'être des théoriciens, allons dans la pratique et on verra comment le prix va se voler, il n'y aura plus de prix. Comment la politique est en train de gérer les histoires? C'est ça le grand problème.
Mais sur celle-ci, je peux encore vous garder. Vous dites que la loi, c'est pas la préoccupation aujourd'hui. Il faut plutôt accompagner les entrepreneurs qui peuvent créer ces sociétés qui pourront être sollicitées demain en sous-traitance. Mais si la loi elle-même ne détermine pas de quelle manière ces sociétés doivent fonctionner, ça peut poser problème. Parce que la loi, elle détermine cette fois-ci que la sous-traitance ne peut être confiée qu'à un Congolais ou à une société à capitaux congolais sous-traitant.
Oui, le problème qui est là, la sous-traitance, qui exerce la sous-traitance, ce sont les entreprises venant d'ailleurs, ou bien les entreprises qui sont ici au Congo, mais sont dirigées par d'autres. Alors, tu fais signer un contrat de sous-traitance, On te paye par exemple, $600. Et dans ces $600, il y a des gens que tu dois payer, que tu as engagé. Tu dois le payer à combien? Or, il faut calculer le salaire de quelqu'un. Et si tu payes à quelqu'un, par exemple, $100 ou $50 et par mois, comment il va vivre? Les soins médicaux sont là. La santé, les divers systèmes, et ainsi de suite. Il est difficile à quelqu'un de s'en sortir. Donc, c'est que favorable que les entreprises congolaises puissent aller de l'avant. Et avec cet argent, c'est là qu'on peut toutefois
aider
les entrepreneurs à aller de l'avant.
Merci beaucoup.
Mais la conséquence avec d'autres entreprises étrangères, moi je ne vois pas, je ne vois même pas aucune chance.
Merci beaucoup, Sosem. Professeur Yassa, merci d'être avec nous. Alors, comment on peut arriver aujourd'hui à accompagner ces Congolais qui peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là qu'ils pourront créer des entreprises qui pourront être utilisées dans la sous-traitance. Professeur Yassa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Non, vous écoutez, professeur.
Oui. Je voudrais d'abord commencer par souligner le fait que nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Nous devons être sérieux. Nous devons éviter le mimétisme, copier des systèmes que nous ne maîtrisons pas. Soyons sérieux. Pourquoi je dis soyons sérieux? Lorsque nous mettons en place, par exemple, un ministère pour les PME, pour les petites et moyennes entreprises, ne faisons pas des copies-collées. Ce ministère-là, dans d'autres pays, sert à quoi? Ce ministère sert à encourager les nationaux à implanter, à créer des entreprises. Est-ce que chez nous, il y a une réelle politique pour encourager les Congolais à créer des entreprises? Vous allez me dire, créer les guichets uniques. Allez-y. Qu'est-ce qu'il faut faire comme gymnastique pour arriver à réunir tous les papiers et tout ça? J'y étais. Je sais de quoi je parle. Je vais en amont. Enfin, je ne vais pas mélanger, je ne commence pas par l'école. Je dis soyons d'abord sérieux. Évitons le mimétisme. En Europe, dans d'autres pays, lorsqu'on veut, si on veut aider les pauvres, les nécessités, on crée des caisses d'assistance sociale. Mais la meilleure manière de distribuer les richesses, d'enrichir les gens, d'autonomiser les gens, c'est de leur permettre de créer des entreprises. La première question, monsieur le journaliste, c'est que voulons-nous faire du Congo, notre pays? Voulons-nous faire du Congo? Ne parlons pas de potentialité. Combien de dirigeants de notre pays comprennent que la plus grande richesse de la RDC, ce n'est ni les diamants, ni l'or, ni le cobalt, c'est d'abord les Congolais et les Congolais? Si tel est le cas, combien de pourcents de notre budget national nous accordons à la formation et à l'éducation? Parce que la première richesse du Congo, c'est la population congolaise. Oui. Éduquer les Congolais, former les Congolais. Quelle formation? La formation telle qu'est conçue par les colonisateurs était au service du colonisateur. Nous formons des ingénieurs, la formation est telle qu'ils sont plus appelés à... Quand on parle de conception de ceci, non, faisons des choses qui correspondent à leur réalité. À faire des tables rondes, des ceci, de l'enseignement supérieur, tout ça. A-t-on réellement changé les choses de manière à les faire correspondre aux réalités de notre pays? Vous allez en Afrique du Sud, vous pouvez former un ingénieur civil ici, en construction, mais il n'a pas les capacités d'être sur le terrain et de faire ceci, cela. Ce n'est pas parce qu'il est incompétent, c'est le système qu'il faut changer. Mais quand vous allez en Afrique du Sud, quelqu'un qui termine 3 ans de civil, il est capable d'ériger un bâtiment. Oui. Mais là, alors, côté sous-traitance, lorsque les Congolais qui se battent quand même arrivent à créer des entreprises, comment obtenir un marché? C'est la croix et la bannière. Les conditions qui sont posées sont telles que beaucoup de jeunes, même si ils arrivaient à créer des entreprises, ils ne sauront pas les remplir. Allô?
Oui, on vous écoute, professeur.
Oui, ils ne sauront pas les remplir. Et lorsqu'ils les ont miraculeusement remplis, ces conditions-là, et qu'ils obtiennent des marchés, vous connaissez, je ne vais pas parler de corruption, c'est un mot peut-être en l'air, parlons des entremetteurs, des gens qui sont là. ah, si tu veux tel document, il faut ceci. Mm-hmm. Finalement, il va se retrouver avec très peu d'argent. Il ne saura même plus réaliser le marché qu'il a obtenu
oui,
avec
en vous suivant, c'est
non, nous devons regarder les choses en face.
En face, il faut aujourd'hui un diagnostic, professeur. Il faut vraiment un diagnostic, regarder les choses en face pour adapter vraiment cette question. Que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau des mesures d'accompagnement, que ce soit au niveau de tout ce que le pouvoir public doit faire pour encourager d'abord l'esprit d'entrepreneuriat et accompagner aussi ces Congolais qui voudraient bien créer de PME, que le ministère les accompagne jusqu'à ce qu'ils pourront maintenant se retrouver dans ces marchés de la sous-traitance. Merci beaucoup, professeur Yassa. Kabouya, vous êtes à Lubumbashi, si vous gardez la ligne. On va revenir à vous demain, mais exactement, on va revenir à Kabouya ainsi que Mathieu qui est à Kalemi. 081-890-6315, le numéro d'appel pour intervenir en direct. Rappelons que le Sénat a voté avant la clôture de la session extraordinaire, le texte unique de la proposition de loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés en RDC après harmonisation avec l'Assemblée nationale. La loi actuellement en vigueur vise à rendre obligatoire la sous-traitance des activités annexes et connexes de l'activité principale et à les réserver, quelle que soit sa nature, aux entreprises congolaises aux capitaux congolais en vue d'en assurer la promotion et favoriser ainsi l'émergence d'une classe moyenne. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-6315.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa. Radio Capitaine.
Parole aux auditeurs.
Kabouya, vous nous appelez de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, les journalistes. Et je voulais intervenir pour vous dire que c'est la sous-traitance aux sociétés congolaises, c'est pas la solution. Mm-hmm. Le législateur doit revoir beaucoup de choses. Moi, je suis à Lubumbashi, je travaille dans une sous-traitance depuis 3 ans. Je n'ai jamais signé un contrat de travail. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je n'ai jamais signé un contrat de travail. Je ne bénéficie d'aucun avantage. Il n'y a pas de congé annuel. Il y a une fois, parce que c'est une sous-traitance sur la plaine bien là où je travaille, et une fois j'étais gérant d'un magasin, les inspecteurs sont passés. Ils ont contrôlé, ils ont découvert que la sous-traitance à laquelle je travaille, c'était une sous-traitance qui n'a jamais été reconnue. Donc, qui n'était pas affiliée, par exemple, à l'INSS, qui n'était pas affiliée. On a suivi tout ça, il y a eu des... Je vous dis qu'il y a encore beaucoup de choses que le législateur doit faire. Vous travaillez, vous ne savez pas... Vous avez signé un contrat, la sous-traitance a signé un contrat pour combien? Donc, je vous dis qu'il y a beaucoup de choses.
Oui, Kabouya, c'est inquiétant. 3 ans sans contrat de travail, c'est le même problème. On a parlé ici, Félicien a évoqué l'absence des prises en charge médicales, des soins médicaux pour ceux qui travaillent sous ces contrats de la sous-traitance. Vous dites qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a même des sociétés qui n'ont même pas des documents, qui ne sont ni affiliés nulle part. Et dommage que les inspecteurs du ministère du Travail découvrent tout cela et après, rien ne s'ensuit. Ce qu'on souhaite, c'est qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, que les législateurs aillent plus loin. Cela veut dire qu'au niveau local, le gouvernement provincial et tous ceux qui ont quand même droit d'avoir un regard dans ce qui se passe peuvent bien sûr poursuivre pour voir comment ces sociétés fonctionnent. Merci beaucoup, Kabouya. Mathieu, vous êtes à Kalemi. Bonjour, Mathieu.
Oui, bonjour, Pierrot. Bonjour à tous les amis de la Radio Capi pour m'avoir aussi associé à ce débat.
On vous écoute, Mathieu.
Oui, moi je disais, les amis ont déjà presque tout dit, monsieur Pierrot. Vous savez, dans notre pays, ce ne sont pas seulement des lois qui nous manquent. Nous avons beaucoup de lois, mais qui sont restées, à mon avis, lettres mortes. Vous savez, monsieur Perrault, le problème ici, c'est les problèmes d'accompagnement. Notre État se limite seulement à promulguer des lois, mais il n'accompagne pas. J'ai un petit exemple ici qui s'est passé dans mon coin. Il y a une maman qui a ouvert un petit cafétéria il n'y a pas si longtemps. Mais il faut voir seulement après combien de jours les agents de l'État sont passés pour les problèmes de taxes et impôts. Voyez-vous. Et il y a un autre point. Nous, jeunes intellectuels congolais, nous ne sommes pas formés pour devenir entrepreneurs. On nous forme pour devenir seulement demandeurs d'emploi. Notre gouvernement devrait aussi penser à changer notre système éducatif, monsieur Pierrot. Voilà ce que j'avais à...
Merci beaucoup, Mathieu. Mais tout cela revient dans cette préoccupation globale hein, sur l'encadrement du pouvoir public, les structures qui doivent encadrer les jeunes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, non seulement les encadrer, mais c'est aussi revoir toutes ces tracasseries fiscales, administratives, qui font aujourd'hui que ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat se découragent totalement. Mais l'ensemble de tout ça revient aujourd'hui, comme venait de le dire professeur Yassa, à la responsabilité du ministère de PME et tous les autres ministères hein, qui doivent avoir l'œil et la main dans les secteurs de la sous-traitance. Merci beaucoup, Mathieu de Calémy. Léonard, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour, Léonard.
Bonjour à tous les auditeurs de la radiographie.
Mais vous avez suivi les inquiétudes de beaucoup de compatriotes. Tout est parti. D'abord, il y en a qui estiment que d'abord, beaucoup de Congolais n'ont pas des capitaux pour créer ces PME qui peuvent s'occuper de la sous-traitance. Il y a les problèmes de l'absence d'encadrement et d'accompagnement, les problèmes de la formation. Voilà autant de questions qui, sous ces mesures, s'ils ne sont pas réglées, ça ne peut pas aider cette loi à pouvoir à régler cette question de la sous-traitance, surtout cela soit vraiment géré par les Congolais. Quel est votre point de vue, Lona?
Bon, l'inquiétude des autres, je peux toujours aussi associer la mienne, parce que si on regarde bien, la situation n'est pas au niveau des législateurs de pouvoir dire que ceci, on vote telle ou telle autre loi, on pourra directement retrouver la situation économique. Bien sûr, l'économie doit être encadrée par une certaine législation, hein. À la plus haute fonction, nous trouvons l'État qui doit bien réguler l'économie dans son entièreté. Revenons-en. Lorsqu'on dit que les gens doivent peut-être recourir à la sous-traitance pour pouvoir créer plus d'emplois, créer la classe moyenne, bien sûr, mais les cas les plus récents qui a fait couler l'encre et salive au point que le gouvernement était incapable de justifier exactement quelle était la réelle raison qui a fait à ce que nos médecins soient poussés dehors, c'est le cas du cinquantenaire. Et là, les dossiers passent inaperçus. Les législateurs là qui se trouvent pour encadrer avec ces législatives et ces législations, ils continuent à nous proposer des textes sans pour autant d'abord suivre les choses qui ont commencé à l'intérieur. Alors, vous voyez, parler de la sous-traitance ailleurs, on peut prendre par exemple le cas d'une filiale qui a besoin d'un fournisseur de matières premières qui peut lui apporter et qui est dans les capacités lui-même de s'en approcher. Mais chez nous, ici, ce que nous voyons quand on dit sous-traitance, sont toujours les mêmes qui sont dans des gouvernements, qui vont chercher la main-d'œuvre facile, envoyer gauche et droite, et c'est tout comme sous-traitance. Mais écoutez, quel est ce sous-traitant qui au départ, s'occupe de la sécurité, ira recruter le médecin? Quelle est la compétence qu'il a? Et on dit qu'on doit voter des lois par rapport à ça. Moi, je trouve que tout ça, c'est faux. Sinon, à promouvoir la classe moyenne, il y a plusieurs moyens à faire. Première, c'est disponibiliser les crédits aux investissements. Est-ce que notre pays le fait? Nous voyons ici avec les fonds pour la promotion de l'industrie. C'est juste banni, des fois il y a des dossiers non traités, il y a des dossiers corrompus. Et quand on suit en dessous de tout ça, sont ceux qui sont mal placés pour investir, qui reçoivent facilement les fonds, encore mal capitalisés. C'est ça le problème. Les jeunes non encadrés. On prépare, on lance les jeunes sur le marché qu'on ne sait même pas on va exploiter sur quoi et sur quel domaine. Et même jusque là, si on demande à notre ministre de l'enseignement, à notre ministère et ministre de l'enseignement et ministre des places, ils ne savent même pas dans 20 ans nous devons avoir quelle catégorie de jeunes pour faire quoi. Et c'est ça le problème dans ces pays.
C'est comme si on gérait sa boutique du coin. On dit, bon, aujourd'hui, c'est les jus qui se vendent. Bon, j'aimais les jus. Demain, c'est ça. On n'a même pas une vision à moyen terme dans ces pays.
Mm-hmm.
Depuis que nous avons commencé. C'est ça, les bons. On nous met le programme du gouvernement sur les 28 axes prioritaires. Où en sommes-nous? J'ai oublié. On attaque autre chose.
Ce que vous dites, Léonard, c'est très important. Vraiment, à ces cas de l'hôpital du cinquantenaire, il y a eu toute cette guerre, cette confusion. Radio Kapi a fait d'ailleurs beaucoup de reportages là-dessus. Et c'était un cas illustratif, comme vous l'avez dit. Hein, on ne sait pas. On devait sous-traiter quel travail. Après, ce sont le médecin. Il y a eu autant de confusion. Mais ce que vous dites, c'est très important. Dans l'absence d'une politique cohérente qui définit quel type d'homme on veut avoir, quel type de jeune on veut avoir pour 20 ans aujourd'hui, c'est la responsabilité au niveau du ministère du plan. Mais sinon, on risque de naviguer à vue, quelles que soient les lois, et cette question ne sera pas résolue comme il faut. Merci beaucoup, Léonard, de nous avoir appelé de Kinshasa. 081-890-6315, c'est le numéro pour intervenir en direct pendant que Lina nous appelle des Colésies. Lina, merci d'être avec nous. Bonjour. Lina, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Radio Kapi. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kapi.
Et vous avez suivi, hein, les inquiétudes sont revenues presque le même. Et là, on sent que l'État a une grande responsabilité, non seulement pour promulguer cette loi, la faire appliquer, mais aussi pour accompagner d'une manière globale, hein, les domaines de l'entrepreneuriat de notre pays, pour permettre à ce que les Congolais se retrouvent exactement comme la loi les prévoit dans ces domaines de la sous-traitance. Quel est votre point de vue, Lina?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Je veux juste insister comme ça. Je vais dans le pays différent, donc comme exemple, en Afrique du Sud, comme on vient de parler, dès que les ingénieurs, comme les gens qui étudient et qui terminent juste 3 et L3, ils vont y aller, au test, on peut le tester, ils vont construire une maison ou un bâtiment là, très très présentable, très bête. Mais ici au Congo, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi, quand ça, et puis le cas congolais, si quelqu'un qui est ingénieur, il peut se présenter pour y aller faire ces choses-là, mais on ne les considère pas, donc. On les considère pas. On est en train de considérer seulement les étrangers. Or, ici au Congo, nous avons aussi des ingénieurs, depuis que l'ingénieur là qui vient du sud, du n'importe quel pays, on ne sait pas, mais on ne les considère pas. Pourquoi le gouvernement congolais
Et, cette inquiétude est justifiée assez. Hein. On voit aujourd'hui quand plusieurs personnes cherchent à mettre en doute notre formation, vous verrez qu'il y a des entreprises qui ne peuvent que recruter, par exemple, ceux qui ont étudié à l'étranger. Vous avez comparé avec l'Afrique du Sud. Alors, vous demandez d'abord qu'au niveau du pouvoir public, qu'on puisse valoriser d'abord ceux qui sont formés au pays, et comme ça, ils peuvent se retrouver dans les PME. Alors, on revient encore à cette question de la politique globale d'accompagnement que nous devons avoir dans ce domaine. Merci beaucoup, Olina. On reste dans le Grand Katanga, cette fois-ci, dans la ville de Lubumbashi Pacifique. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, Pierrot, également à tous les auditeurs qui nous suivent pendant ce moment. Pierrot, la sous-traitance, c'est vraiment un moyen le plus sûr pour la création de la classe moyenne en République démocratique du Congo, parce que jusque-là, il n'y en a pas. C'est vrai, Pierrot, nous saluons cette loi qui a été promulguée par...
Qui a été adoptée au Sénat.
Adopté, oui, nous saluons ça, parce que néanmoins nos législateurs ont compris qu'il le fallait pour booster cette classe sociale. Néanmoins, Pierrot, la force d'une loi, c'est la contrainte. Lorsqu'il n'y a pas de contrainte, la loi reste là, bon, elle ne va pas agir, elle ne sera rien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous constatons, ce sont les mêmes législateurs ayant le pouvoir dans leurs mains, les mêmes gestionnaires, les dirigeants, les membres du gouvernement, qui vont encore chercher à changer des choses, à prendre, parce qu'ils savent que c'est une question de moyens, ils vont mettre les moyens dans les mains de leurs frères, dans les mains de leurs... même des étrangers, afin que la sous-traitance tombe encore dans leurs mains pour que ça soit toujours faire même qui gagner. Vous voyez que ça, ça ne sera pas une très bonne chose, raison pour laquelle nous, nous défendons, nous disons que cette loi doit renfermer également des contraintes. Quand on dit par exemple que ça ne sera que le peuple congolais, oui, il faut que ça soit vérifié. Qu'est-ce qu'on voit ici à Lubumbashi? On voit à Lubumbashi ici, on vous dit que la loi est sortie, les petits commerces n'est réservé qu'aux Congolais. Mais aujourd'hui, les blancs, les étrangers, ils le font et ils ne sont pas inquiétés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les Congolais, ils les mettent là-bas comme étiquette tout simplement, mais en réalité, c'est toujours eux qui en bénéficient. Comment est-ce qu'on pourra monter cette place sociale? Ça devient très compliqué, ça devient très difficile. Raison pour laquelle nous nous disons, nous allons être cette fois-ci regardant qui fait quoi? Est-ce qu'il est rempli de conditions? J'ai suivi quelqu'un qui a tantôt dit là que les Congolais n'ont pas de capitaux, tout ça. Non, ce n'est pas ça. C'est une question de se mettre ensemble dans des coopératives. Nous avons des jeunes gens qui venaient de terminer les universités qui n'ont pas d'emploi, mais l'intelligence est en place. Ils ont tout ça. Ils peuvent mettre ça en place et chercher des moyens dans des coopératives et monter des cas sociaux par et à travers des sous-traitants. Mais pas ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, les mêmes entrepreneurs étrangers qui viennent chez nous, ils sont en même temps eux-mêmes sous-traitants. Ça veut dire quoi, Tapiro? Ça veut dire que c'est compliqué. Et tout ça,
Et c'est pourquoi on soutient votre prise de position, parce que quand vous estimez que la force d'une loi, c'est la contrainte, comme la loi les prévoit déjà, il faudrait aujourd'hui qu'elle ne puisse pas être comme ce que nous avons vu avec la loi sur les petits commerces. On en a parlé, qu'il y a tous ces Asiatiques, tous ces étrangers qui installent des magasins dans tous les coins de rue, qui vendent jusqu'à une aiguille, alors que cela est réservé aux nationaux. Et cette loi, on a vu les associations de vendeurs faire des grèves réclamées, mais la situation n'a pas changé sur terrain. Et vous avez aussi peur que, même avec la loi sur la question de la sous-traitance, la réglementation, qu'on se retrouve avec les mêmes personnes qui sont investisseurs, grands investisseurs, et qui se retrouvent dans la sous-traitance, et voir même aussi les conflits d'intérêts, pour voir qu'il y a des sociétés étrangères qui sont soit des sociétés dirigées par des étrangers, à capitaux étrangers, mais qui sont couverts par des Congolais. Voilà, toutes ces questions doivent être réglées. Mais ce que vous avez dit, c'est important, que aujourd'hui, on peut encadrer les jeunes qui ont l'esprit de l'entrepreneuriat, et comme ça, ils peuvent se retrouver dans des coopératives. Une fois encadrés, ils peuvent investir dans des PME qui, demain, peuvent être utilisés dans la sous-traitance. 081-890-6315 pour intervenir en direct. Et Ibanza, vous gardez la ligne, vous êtes à Kavu, vous, au Sud Kivu.
Parole aux auditeurs.
Ibanza, merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, merci beaucoup, M. Pierrot. Vraiment, je vous ai suivi depuis le début avec beaucoup d'intérêt. Ce débat, c'est celle que vous avez choisi aujourd'hui, Pierrot, je dois saluer, je salue. Tout ce que nous pouvons crier, Pierrot, nous venons bientôt de ce combien d'années de l'indépendance. On a écrit, le législateur a proposé des lois et des lois. Le problème de tout cela, tonton Pierrot, mais respect et honneur à votre personne.
Merci.
Donc, il faut que l'exécution des lois établies par les législateurs soit suivie par les Aïla ex-Congolais aujourd'hui. Le Congo serait un paradis? Zéro. Oh, parce que je manque de mots à vous dire. Puisque les gens qui m'ont précédé, ils ont jugé tous mes contenus. Vous allez m'excuser. Quel est ce document qui devait rendre le Congo VIX par rapport au manifeste de la Cédée que le pauvre maréchal avait écrit et dicté avec les différents responsables et de toute caboche confondue? Si l'applicabilité de ce petit document manifeste de la Cédée, Zéro, le dossier du Congo n'est pas un problème de sexe ou quoi. C'est un problème d'homme.
Merci beaucoup, Ibas. Et d'ailleurs, là, vous avez rejoint Félicien qui a toujours estimé que le problème aujourd'hui, c'est le problème d'homme. Il faut travailler l'homme congolais. D'ailleurs, en évoquant le manifeste de l'Ancelé, rappelons quand même que ça a été un document élaboré sur d'une manière plus succincte avec toute la définition des stratégies de la politique globale pour le développement de ces pays. Et quand on regarde les autres documents qui sont venus, des CRP 1, des CRP 2, autant, et tout le plan stratégique de développement du Congo, la plupart, si vous vous retournez, vous verrez que il y a ce qui a été considéré comme la base même de documents sur le manifeste de l'Ancelé. Malheureusement, on sait comment ça a été appliqué ou non appliqué, et peut-être et c'est ça le problème aujourd'hui. Merci beaucoup, Ibanza, de nous avoir appelé de Kavuvu, mais vous l'avez dit, de Kavuvu. Oui, mais comme vous l'avez dit, le problème c'est l'homme. Hein. Si l'homme arrive à comprendre sa responsabilité, surtout dans ces domaines où nous parlons, où nous crions sur la sous-traitance, le petit commerce, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Merci beaucoup, Ibanza. Patrick, vous êtes à Bukavu, vous restez dans la même province. Vous avez suivi les uns et les autres. Patrick, bonjour. Quel est votre point de vue? Patrick, vous êtes avec nous? En attendant qu'on améliore la ligne de Patrick qui est à Bukavu, nous retournons ici à Kinshasa. Hubert, vous nous avez rejoint dans cet échange. Bonjour Hubert.
Oui, bonjour M. Thérault.
Donc vous écoutez Hubert. Diminuez le volume de votre radio s'il vous plaît.
Oui, merci. M. Thérault, moi je regrette. Notre pays, on n'a pas la culture de respecter quelque chose.
Mm-hmm.
Si on ne respecte pas la Constitution, comment on peut respecter les lois qui sont adoptées à l'Assemblée nationale? Mon frère, je vous dis, depuis le temps de Maréchal, dans ce pays ici, on a signé des lois de sous-traitance. Souvenez-vous, l'avenue Willery, ce monsieur-là qui sont là-bas, soi-disant nos dirigeants, quand ils voient qu'il y a l'argent qui va entrer quelque part, alors ils vont créer des sociétés de sous-traitance. Souvenez-vous de la société Sotracomeza. Sotracomeza, créée de toutes pièces pour avoir l'argent, parce qu'on avait vu que quelque part dans un ministère, on va donner l'argent. Alors, on a fabriqué une société.
Mm-hmm.
Et cette route-là, il y a même un crocodile qui est sorti sur l'avenue des Huileries. Demandez, si vous avez été ici à Kinshasa dans les années 90, vous allez voir que c'est dit la vérité, parce que moi-même, j'ai habité Lingwala. Alors, qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Ici, chez nous, nous ne respectons rien.
Mm-hmm.
Hein? Si on ne respecte rien, comment on peut réaliser quelque chose? Souvenez-vous, les gens se sont donnés à fabriquer de l'eau pure ici. Moi-même, je connais des amis qui avaient des filtres d'eau et ils fabriquaient. Le gouverneur a interdit et aujourd'hui, ça revient encore sous une autre forme. Et maintenant, qui fait cette eau pure aujourd'hui? Ce sont les gens, soi-disant les gouvernants. Vous voyez, mon frère? Alors, les petits peuples ici que nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons faire? Si nous créons quelque chose, moi-même j'étais dans une boutique ici sur Pascal, mais il faut voir. Moi je suis sous la patente, mais il y a des gens là, des richesses de commerce qui viennent demander les taxes dans une petite boutique au coin. Mon frère, que voulez-vous?
Mm-hmm.
Mon frère, d'ailleurs ici, toutes les lois ont une date de péremption. C'est comme des médicaments. On peut promulguer une loi, mais vous allez voir, donnez seulement le temps au temps, vous allez voir, M. Kéro, qu'à un certain moment, la loi est bannie et c'est fini, ça revient au même. Mm-hmm. Une seule chose qu'on a réussi ici, c'est seulement que dans le transport, Kabola Makolo, on a interdit ça, ça a réussi, gloire à Dieu. Mais le reste des lois, qu'est-ce que vous avez dit, quelle loi qui a été respectée et qui est respectée jusqu'à aujourd'hui, Kéro? Alors, nos frères dirigeants qui sont à la tête là-bas, ils peuvent adopter des lois. Mais s'il n'y a pas la force, comme mon prédécesseur a dit,
mm-hmm.
la force de la loi, c'est la contrainte. Si on ne contraint pas, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons les universitaires qui terminent les universités chaque jour,
mm-hmm.
qui sont capables de faire quelque chose. Mais ils vont trouver l'argent où? Et regardez, à l'SPI, est-ce qu'un étudiant qui vient de terminer aujourd'hui, Pierrot, qui vient de terminer l'université aujourd'hui, il va se pointer là-bas et on peut lui donner l'argent? Je ne pense pas.
Hubert, pour ne pas vous couper, vous vous rappelez, quand on a eu plusieurs débats autour de cette question des FPI, on s'est rendu compte que dans le rapport, il y a eu beaucoup de politiques qui se sont retrouvées, qui ont retiré l'argent des FPI. Et d'ailleurs, nombreux n'ont pas pu remettre cet argent, on connaît, mais avec les nouveaux dirigeants, ils ont promis que ça pourra aller. Alors, le problème aujourd'hui, c'est qu'on doit avoir cette culture de respect des textes. Alors, créer des sociétés fictives et des sociétés écrans créées dans les conflits d'intérêts pour pouvoir s'occuper de la sous-traitance, comme on va se rendre compte qu'elle revient aux Congolais. Mais le problème, c'est le respect des lois. On a vu aussi toute cette confusion autour des lots en sachets, l'eau pure, interdiction, ça se fabrique, les sachets biodégradables, et tout ça. Mais à ces conditions, vous l'avez dit, c'est difficile d'avoir aujourd'hui des Congolais qui se distinguent dans une classe moyenne si on doit continuer avec ce genre de mesures. Merci beaucoup, Hubert. On retourne à Lubumbashi. Jean-Dominique, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à la radio Papi.
Bonjour à tous les invités. Voilà, on vous écoute, Jean-Dominique.
Voilà. En tout cas, ce sont des questions très importantes, monsieur le journaliste, que nous devons toujours traiter à maintes reprises pour la bonne compréhension des étudiants. Je vous dis, ici à Lubumbashi, nous sommes près de la frontière de Katumbalé pour Zambie. Donc, si vous voyez la façon qu'on maltraite les gens, messieurs les journalistes, par les documents, vous ne pouvez pas accepter. Il y a des documents autres qui n'ont même pas affaire avec un petit commerçant. Je vous rappelle qu'on avait un petit dépôt de documents qu'on avait ouvert ici à Lubumbashi, au niveau de Savonier au Bélin. Mais il faut voir combien de cartes, messieurs les journalistes. Combien de cartes, et même les sous-traitants, mais ils ne réagissent pas, monsieur le journaliste. Ce sont des choses que nous ne devons pas négliger. Le point, c'est quoi? On parle, mais la mise en application de ce qu'on parle chaque fois, ça nous décourage. Prenons par exemple un étudiant qui vient de terminer, comme je vous l'ai dit là. On a été au campus, on vient de terminer, mais nous n'avons pas d'emploi. Au lieu de rester dans le chômage, on a un peu de raisonner comment créer. Comment créer? Qu'est-ce qu'il faut? On crée quelque chose comme un dépôt ciment ou bien une activité de comme ça pour l'entreprise. Et le temps qui vient directement, ben même, bon, c'est normal, on doit faire le document de l'État, mais il faut du temps, pas directement, on met le cadenas, ordre de mission, de l'histoire, le permis d'exploitation. En tout cas, c'est très compliqué, monsieur le journaliste.
Et pourtant, avec l'idée de guichet unique pour la création de entreprises, l'idée c'était aujourd'hui de faciliter à la population l'accès. Quand quelqu'un voudrait créer une activité, une PME, qu'il ait facilement les documents, que l'État l'accompagne dans plus de, ailleurs, c'est cet accompagnement-là dont beaucoup de gens ont besoin de cet accompagnement. C'est un peu plus ça, accompagner les gens qui ont besoin de se lancer dans l'entrepreneuriat et leur aider aussi et à pouvoir accéder aux documents nécessaires, les accompagner, et comme ça ils pourront se retrouver dans tous ces débats autour de la sous-traitance. Merci beaucoup, Jean-Dominique. Jérôme, vous êtes à Bounia. Merci Jérôme de nous avoir contacté. Vous avez suivi les uns et les autres, et là on suit la loi votée au Sénat. Beaucoup de personnes estiment que s'il n'y a pas de mesure d'accompagnement et s'il n'y a pas la volonté politique d'appliquer cette loi, cela ne va pas résoudre cette question de sous-traitance. Quel est votre point de vue, Jérôme?
Ok, merci Pierrot pour nous avoir associés à l'émission. Et bonjour aussi à tous les amis de la radio Capi. Moi, je pense que la loi telle que vous le dites, elle est bonne. Parce que compte tenu de l'évolution mondiale, il faut de lois pour essayer de mettre des garde-fous et retracer certaines lignes pour la bonne fonctionnalité à la matière telle que de l'entrepreneuriat, telle que dans le système dans le secteur de sous-traitance, selon le sujet du jour. Mais néanmoins, cette loi devait d'abord tenir compte de la globalité de l'assainissement dans le climat des affaires. Parce que le sous-traitant doit exister d'abord comme une entreprise afin que soit appelé associé pour le contrat avec la société ou les entreprises qui sont à place. Mais le problème qui se pose à notre niveau, comme ont dit les amis, c'est la crédibilité contre les entreprises congolaises face à ces étrangers qui viennent investir dans notre pays. Parce qu'une bonne économie doit, dans sa globalité, être accompagnée par des institutions bancaires appréciées qui doivent monétiser l'idée des entrepreneurs. Mais quand vous voyez bien dans notre système congolais, Le banque ne tire pas tellement confiance, et d'autant que les entrepreneurs congolais au vu des étrangers ne tirent tellement pas de confiance.
Mm-hmm.
La loi, elle est bonne. Ma contribution, que cette loi, d'abord, puisse regarder dans la globalité l'ensemble des systèmes de fonctionnement économique congolais, et pour permettre maintenant à ce moment que dans l'applicabilité, qu'on ait que cette loi fasse partie de quelque chose de nouveau dans les équipes quotidiennes des Congolais.
Merci beaucoup, Jérôme. Permettons aussi, Jérôme, qu'on accorde la parole à Jean-Marie qui est à Lubumbashi pour clore ces débats. Jean-Marie, merci d'être avec nous. Et en 48 secondes, vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre point de vue pour terminer cet échange, Jean-Marie?
Oui, et bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Pierrot, nous devons bien savoir qu'autre temps, autre merci. C'est que le maître change d'une époque à une autre. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Et l'époque à laquelle nous devons changer nos mentalités. Je voudrais aborder que les problèmes se posent à trois niveaux par rapport au sous-traitant. Au premier niveau, c'est à l'État lui-même. Imaginez-vous, l'État aujourd'hui est corrompu à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Vous allez voir l'État qui... Je vous donne l'État par exemple.
Alors là, Jean-Marie, vous avez déjà donné le premier point, c'est l'État et la question de la corruption. Les deux autres rapidement, parce que là, on a que 20 secondes.
Voilà. Le deuxième, c'est les Congolais lui-même, puisque les expatriés ou les étrangers ne travaillent pas eux-mêmes. Ils travaillent avec les Congolais.
Mm-hmm.
Vous allez voir s'il y a un Congolais qui travaille à la tête. Et s'il essayait seulement de... il touche par exemple 1 500 $. Et quand on le demande, on peut payer combien, M. Balter? Il dit, on peut même le donner 300 $, 200 $.
Mm-hmm. C'est une question de conscience et volonté. Et le dernier point, parce qu'on a fini...
Le dernier point, c'est par rapport aux expatriés. C'est-à-dire, quand il y a un Congolais qui essaie un peu de revendiquer les droits par rapport à ses semblables ou à ses quotidiens, vous allez voir que ce Congolais-là ne fera pas longtemps la tête. On va l'échapper.
Voilà, merci beaucoup, Jean-Marie. La responsabilité de l'État, du Congolais lui-même, de l'expatrié, tout ça, ça doit être réglé par le pouvoir public. Merci. Vous avez été nombreux à vous intéresser à cette question de la sous-traitance. Merci pour votre aimable attention. Merci à toute l'équipe des productions des paroles aux auditeurs de Denis Yangasta, a été à la mise en œuvre de toute cette semaine. Merci à Jules Lungembo qui a réalisé et coordonné ce magazine d'aujourd'hui. Julie Fez a été tout standard. Pierrot et la Mégie vous l'a présenté sous la supervision de Martin Sebujang. Les paroles aux auditeurs vous retrouvent le lundi à la même heure. D'ici là, portez-vous bien chez vous et surtout bon week-end en compagnie de Radio Capi. Au revoir.